reviendras-tu dire? Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Alors, Natacha, vous nous expliquez pourquoi vous avez choisi cette chanson ?
C'est une chanson que j'entendais pendant l'enfance à la radio chez mes parents, que j'écoutais à l'adolescence. Et jeune adulte, je la chantais quand je vivais des amours lointaines et à distance. Et je trouve que c'est une chanson qui est éternelle, qui n'a pas vieilli. Et j'ai pu me rendre compte que je n'avais pas la patience des femmes de marin comme elle.
Voilà. Voilà. Quand on parle de patience, on parle du temps, évidemment, et des chansons qui ne vieillissent pas, c'est aussi parler du temps. Alors on continue cette émission, vous avez compris, on parle beaucoup du temps. Et là on va bientôt écouter un texte qui a été écrit par un auteur qu'on va appeler PLR. Et c'est Julien qui va nous présenter, ou qui va nous parler de la présentation que cet auteur a fait de lui-même. On écoute Julien.
Je débute dans la passion de l'écriture. Je souhaiterais être un auteur un peu mystère. J'aime partager mes textes. C'est pour moi un exercice d'affirmation sur le chemin de l'écrivain. Il faut faire quelque chose de soi et qui passionne. J'ai du temps entre deux soins, donc j'en profite. Il y a un air de Bretagne dans mes plumes. Je suis un expatrié sur Lyon. L'écriture est également un escalier vers une forme de liberté propre à soi. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à repasser, retravailler son texte. Il faut suer de la plume. Nota bene, j'aime pas vraiment lire, c'est mon paradoxe. La montre de Pierre, Paul et Jacques. Un jour, la montre a trouvé son existence chez le marchand. Pire, elle s'est démocratisée en France. Ce simple mécanisme apparent allait révolutionner l'emploi du temps et les mœurs de chacun. Autre que la pendule et l'approximatif cadran solaire, la montre donne l'heure exacte, où que l'on soit et de manière très précise. Il était rare d'avoir l'heure avant elle. Et c'est devenu un jeu formidable pour tous les hommes que de se donner des rendez-vous précis. Pierre est convaincu qu'il lui faut une montre à gousset. Cette première montre dira quelque chose de lui. Elle dira
« Je suis dans l'air du temps ».
À cette époque, il faut remonter les montres à l'aide d'une couronne qui entraîne un ressort à se tendre. Pierre choisit une montre en laiton, un peu terne, chez le marchand. Il la paye en une fois, avec toutes ses économies, soit 5 hivers de labeur dans les champs. Une somme pour un bien un peu futile chez un serviteur de la terre, puisque le blé ne demande pas une coupe à heure fixe, mais à la couleur de l'épi. Pierre n'a pas été à l'école, mais il détient maintenant une montre sophistiquée et digne d'intérêt. Dans sa campagne, il se construit très vite un monde intérieur et une philosophie des heures et autres mécaniques savantes du temps. Il mesure la course de l'escargot sur une feuille de salade, mais peut aussi noter les heures de passage des oiseaux au-dessus de la maison. Il y a pour lui un lien entre ces heures et le cosmos. Et c'est ainsi que, à 11h12, un vendredi 13 novembre, il rencontre le soupir d'une jeune femme assise sur un banc. Lorsque Pierre s'approche de sa future femme, il ne peut s'empêcher de dire
« Quelle belle journée à cette heure !»
Il aurait pu dire presque n'importe quoi d'autre, mais il faut un prétexte pour lui faire remarquer sa montre et lui fixer un autre rendez-vous à une heure précise. On peut penser, qu'il veut par cette démonstration épater la jeune femme avant de l'épouser. Mais Pierre ne cherche pas à prouver une supériorité qu'il n'a pas. Il aime surtout cette montre et il aime se mêler du temps, des heures, des minutes. C'est pour lui un rendez-vous avec le sens profond de la vie. Alors qu'il devient parent et bon mari, l'anecdote se raconte déjà en famille.
« J'avais l'heure sur moi »,
disait-il lorsqu'il évoquait la rencontre avec sa tendre femme.
« Le soleil était plein, l'heure était précise et le vent venait de l'ouest. »
Il se trouvait alors convaincu d'avoir trouvé le secret de sa douce rencontre. Un jour, alors que Pierre est fiévreux depuis plusieurs jours, son premier fils qu'il avait appelé Paul se rend à son chevet. Par prudence, Pierre lui transmet solennellement la montre à Gousset.
« Elle te donnera l'heure exacte »,
dit Pierre à son fils, avant de s'éteindre la nuit même.
Mais Paul s'est assoupi à son chevet. Il ne s'est pas rendu compte de l'heure exacte du dernier soupir de son père. Non sans trembler, il se lève le lendemain matin avec le sentiment d'échec face à cette dernière volonté. Lui qui avait toujours vu son père passionné par le temps qui passe, il ne peut donner l'heure exacte de sa mort. Il vient de décevoir son père pour la première fois. Paul, qui est un jeune homme de 18 ans, fier de ses racines paysannes, avec un entrain pour le labeur, est maintenant abattu par de sombres nuages au loin, son monde intérieur dans le creux de l'abandon. Il quitte alors la ferme, sa mère, son jeune frère, pour partir vagabonder au village. Lui qui pensait, enfant, pouvoir marcher sur les traces de son père, ne comprend plus rien au présent. Au début, il ne sait pas où aller, ni quoi faire au village, alors il marche le long des rues. Ensuite, il a si mal au ventre et si mal aux pieds à force de déambuler que vient la question de son avenir. Lorsqu'il a idée d'aller rencontrer le prêtre pour tout secours, la cérémonie de l'enterrement a déjà eu lieu depuis une semaine. Il attend le matin avant de toquer aux portes de l'église. Elle s'ouvre, laissant paraître Jacques, le prêtre auréolé de lumière. Il fait beau ce jour-là. Les grands vitraux sont emplis de couleurs claires. Sur le pas de la porte, l'homme de foi accepte de le faire entrer. Paul s'empresse de rejoindre la chapelle.
« Pour demander le pardon »,
dit-il. Jacques le laisse faire, sans comprendre de quelle faute Paul veut se faire pardonner. Soudain, il remarque la montre à Gousset qui se balance autour de son poing, attachée par un simple fil de fer.
« Veut-il la briser sur l'autel ?»
se demande Jacques, stupéfait, tant la démarche de Paul semble déterminée. Mais Paul se met silencieusement à genoux. Au bout d'un moment, ils n'ont toujours pas osé parler l'un et l'autre de la montre à Gousset que détient Paul.
« As-tu tué pour l'acquérir ?»
murmure Jacques en lui-même. Enfin, Paul se décide à expliquer la sombre raison de sa venue, car à chaque regard sur le petit cadran, il revit la déception imaginée de son père.
« Elle donne l'heure exacte, »
dit Paul.
« Il croyait qu'elle... »
Mais Jacques l'interrompt. Il sait que le temps devait faire son chemin, le deuil aussi. Jacques a pour habitude de mettre à contribution chacun au service de l'Église. Il pense que cela peut aider la foi. Alors Paul se voit confier l'heure des cloches, car le prêtre semble vouloir vraiment le prendre sous son aile. Il doit sonner à l'aide d'une corde et à heure fixe ces mêmes cloches. Il est presque parfait pour ce rôle, car il ne manque pas une minute avec la montre à Gousset. Il va d'ailleurs pouvoir manger sur la quête en échange de ce service. Cependant, une année passe et Paul n'arrive pas à guérir malgré les temps d'échange théologique avec Jacques qui ont lieu après le retentissement des cloches. Il est comme une chèvre qui tourne en rond autour de son piquet, si bien qu'un jour sa bile gonfle et l'empoisonne. Il tombe fiévreux à l'image de son père autrefois et Jacques est à son chevet.
« Elle te donnera l'heure exacte »,
dit Paul à son tour.
Jacques met toute son humanité pour l'accompagner. Lorsque le regard de Paul ne laisse plus apparaître de vie, il s'aperçoit que les aiguilles de la montre se sont arrêtées. Doit-elle être remontée ?
Étrange,
se dit Jacques.
Les rouages de la montre se sont suspendus à cet instant précis, le laissant retourner au cycle infini des mortels à 23h35. Il a les yeux encore ouverts. Il avait le souhait d'imprimer la dernière minute. Je crois qu'il a réussi, qu'il repose en paix maintenant.
Jacques met ensuite les bras de Paul soigneusement étendus et croisés sur le ventre pour que sa famille puisse lui voir un air digne sur son lit de mort. Puis, défaisant le fil de fer qui retient la montre à gousset, il la retire de ses mains. Enfin, il prend l'artefact de laiton pour le glisser dans sa poche de curé.
« Étrange !»
se dit une nouvelle fois Jacques en ajustant les plis du pantalon de Paul.
« Cette montre à gousset me pose maintenant question. Elle est le fruit de l'inspiration de l'homme pour l'homme. Pourtant, elle s'est arrêtée à l'heure exacte de la mort de Paul. J'en suis le témoin. Une astuce du morceau de laiton sur la poésie du hasard ne peut être un signe avéré. Paul m'a conté la ferveur de son père pour les heures, les minutes et le temps qui passe. Mais n'était-ce pas de la vanité de la part de Pierre de vouloir connaître les secrets de l'heure exacte où le Seigneur le rappelle à lui? Ce faisant, n'était-ce pas devenu un trop grand fardeau pour Paul? J'ai pu constater sa grande tristesse pour une telle mission, qu'il repose en paix car, j'en témoigne au Tout-Puissant, il n'a pas gardé son regard sur le rivage de toutes les prières à fixer l'or. Il était un brave et un bon gardien du temps.
Tout en tirant les draps sur les bords, Jacques s'interroge.
Dois-je transmettre l'or exact à sa famille ou à qui que ce soit qui en aurait la volonté? Pierre n'a-t-il pas provoqué la mort de son fils aîné en lui transmettant cette montre? Face à l'énigme du monde, l'heure exacte n'est-elle pas un mal? Que faire de cette montre maintenant? N'est-elle pas l'essence malsaine de cette histoire? Ne doit-elle pas l'accompagner dans la terre par prudence?
Tout en se disant cela, Jacques se fait la remarque que Paul, le corps devenu froid, est un beau mort. Il s'en émeut et s'en va ordonner le creusement de la tombe.
Lecture et commentaire.
Merci, merci à PLR pour avoir écrit ce texte, la montre de Pierre, Paul et Jacques. Et voilà, et tout le monde parle en même temps, merci Cécilia. Et oui, on a repris le micro. Et on est plusieurs autour de la table, puisque vous avez créé et réalisé cette émission tous ensemble. Et on a bien entendu dans la lecture de ce texte comment c'était un travail très collectif. Alors Cécilia, maintenant vous avez le droit de prendre le micro pour nous expliquer ce travail collectif.
Alors oui, c'est vrai que l'aventure de Radio Passage, c'est vraiment une aventure collective et qu'on souhaite toujours un peu partager au-delà du petit groupe des piliers, on va dire. Hein. Donc on a quatre piliers très fidèles qui sont Maroula, Zaya, Nathalie et Julien. Et puis au-delà de ce quatuor, là aussi, on a aussi à chaque fois, pour chaque cycle d'aventure, un ensemble de personnalités qui viennent nous rejoindre. Là, donc, on a eu Didier, on a eu Omar, on a d'autres personnes qui ont pu participer à notre proposition. Et puis, au-delà de ça, il y a un ensemble de gens autour de nous qu'on croise, qu'on voit, le quatuor Emana qui est dans l'hôpital, et tout d'un coup, on se dit, pourquoi pas les interviewer? Et puis, tout d'un coup, il y a PLR qui passe par là, qui passe au bureau, et puis qui dit, j'ai écrit un texte, et puis ça parle d'une montre. Alors on se dit, la montre, c'est le temps. Alors du coup, on lui propose de nous apporter son texte, et puis on continue, et puis on croise d'autres gens et d'autres personnalités, et puis on se rappelle de personnes. Et comme ça, il y a une sorte de tissu qui se passe. Alors on salue d'ailleurs, je profite d'être au micro pour saluer tous ceux qui ont participé un peu de loin à ce projet, mais qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre.
Merci. Merci Cécilia. Et on va passer à l'une de vos dernières créations sonores. Vous êtes allé explorer cette notion du temps dans un hôpital gériatrique, évidemment.
Exactement. Et toujours en reprenant les périodes de répétition du quatuor Emana. Et là, cette fois-ci, c'est du Shostakovich. C'est le quatuor numéro 6.
Des activités d'abord quand on a une famille, on a des activités nombreuses.
Oui.
On fait l'hôpital, mais on est là et on se repose et on se fait soigner. On s'occupe de nous.
C'est bien ça aussi.
C'est différent.
C'est sympa d'avoir des gens qui s'occupent de nous. C'est vrai. Et pour vous, donc, qu'est-ce que signifie le temps pour vous, madame? Comment? Le temps présent, le temps passé, ça vous parle ou pas? Si on vous dit ça, si je vous
le
dis.
Le temps ici, passé ici.
Où vous voulez, le temps passé ailleurs, ou ici, ou dans votre plus privé.
Moi, je suis contente d'être ici. Ah, c'est bien. Mais on a toujours des bonnes activités.
D'accord.
Des trucs comme ça, ça va.
C'est vrai, ça fait plaisir. Hein.
Ça vous plaît.
On n'a pas le temps de s'ennuyer.
Mais tant mieux, c'est bien.
Sauf le samedi dimanche, bien sûr.
Hein. Le temps est long, mais bon, c'est
nickel. Il faut qu'il se repose quand même. Hein.
Ah oui.
C'est ça le problème. Hein.
C'est ça.
Avec le sentiment d'avoir du temps.
Oui, quand même. Bien sûr.
C'est large tout ce que vous dites, le temps, ouais. Le temps, son, comment on veut l'occuper. Actuellement, oui, je suis à la retraite, donc ouais. Je suis à la maison.
D'accord.
Mais j'ai plus d'enfants jeunes.
D'accord.
J'ai plus de mari non plus, il est décédé. Mmh. Donc.
Quand on vous dit le temps, à quoi ça vous fait penser?
Ça dépend comment j'ai à l'utiliser, le ah. temps.
Il est précieux.
Pardon.
C'est précieux le temps pour vous.
Bah c'est précieux le temps, oui, bien sûr. Il faut savoir l'utiliser.
C'est ça, à bon escient.
Il n'y a pas de temps gaspillé. Il n'y a que du temps perdu.
Merci. Qui voudrait faire des commentaires sur ce travail que vous avez été faire autour de cette table?
C'est moi-même qui est allé avec Omar, oui, et Julien. On est allé à l'hôpital de Fourvière, c'est un hôpital gériatrique. Les gens passent leur temps en plein temps, ou des fois, ils sont en semaine, en fait, ça dépend de leur état de santé. Et j'ai été les interroger sur le temps, ça peut être très facile, mais on est arrivé à tirer quelque chose avec Stéphane. Voilà, c'est très
oui.
Mais c'est pas facile d'interroger parce qu'il s'agit, c'est très difficile.
Oui.
C'est vrai que non, c'est un sacré apprentissage, tu pourrais en parler aussi, Catherine, d'interviewer. C'est quand même pas si simple de poser des questions. C'est vraiment des choses qui sont pas si simples et je pense que tu as peut-être vécu ça aussi, Zaya, c'est de se dire que, comment je fais pour mettre quelqu'un en confiance et lui poser des questions.
Oui, d'autant plus que en fait, c'est quand même une maison de retraite. C'est un principe pour une maison de retraite, on a un fin de vie. Quoi. C'est pas facile de parler à quelqu'un qu'on sait qu'il va pas vivre très 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 longtemps. Il va partir très bientôt. Il y a ça aussi qui est difficile à. Moi, j'avais du mal avec ça, avec le temps. Ah oui. Leur temps à eux, c'était un peu délicat de parler du temps parce que c'est restreint quoi, dans leur vie, ce qui reste à vivre. Du coup, j'étais un petit peu gênée par moment. Je ne posais pas trop de questions et je les ai mal posées en plus.
Le temps, plus le temps passe et plus le temps devient un sujet tabou.
Oui, c'est vrai. Hein.
En fait.
Mais c'est vrai.
Alors, on a bientôt terminé cette émission avec toutes ces jolies créations sonores que vous avez apporté là, Radio Passage, et on va continuer par une lecture d'un poème d'Aragon, et on commentera ensuite, non? On demande à Natacha de faire un commentaire sur cette
à Didier,
lecture.
Oui.
À Didier. Didier, vous voulez nous faire un commentaire sur ce poème?
Oui, bien sûr. Donc, c'est un poème de Louis Aragon. Alors, il utilise différentes manières pour nous dire qu'on vieillit. Le poème parle de la jeunesse qui passe et disparaît avec le temps. Il n'emploie jamais le mot vieillesse. On ressent la nostalgie de la jeunesse perdue. La répétition dans le texte « Maintenant que la jeunesse » donne un rythme au texte et montre que la jeunesse n'est plus là. Certaines fois dans le texte, la jeunesse est présentée comme une personne. Vous verrez ça. Il parle même de sa déception quand il dit « la jeunesse m'a trahi ». Il utilise vers la fin du texte l'expression « l'argent de mes cheveux » pour montrer qu'il a vieilli et que la jeunesse appartient au passé. C'est un poème qui exprime la perte de la jeunesse mais aussi le passage du temps. Aragon utilise des répétitions et des images simples pour nous faire ressentir sa tristesse de vieillir et de perdre sa jeunesse. Voilà ce que je peux dire de ce texte.
Merci Didier. Et on écoute ce texte, poème de l'Aragon, lu par Natacha et Julien.
Le cri du butor.
Maintenant que la jeunesse s'éteint au carreau bleui.
Maintenant que la jeunesse machinale m'a trahi.
Maintenant que la jeunesse, tu t'en souviens ? Souviens-t'en.
Maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps.
Maintenant que la jeunesse détourne ses yeux lilas.
Maintenant que la jeunesse n'est plus ici, n'est plus là.
Maintenant que la jeunesse, sur d'autres chemins légers.
Maintenant que la jeunesse suit un nuage étranger.
Maintenant que la jeunesse a fui voleur généreux.
Me laissant mon droit d'aînesse et l'argent de mes cheveux.
Il fait beau à n'y pas croire. Fait beau comme jamais.
Quel temps ! Quel temps sans mémoire, on ne sait plus comment voir.
Ni se lever, ni s'asseoir.
Il fait beau comme jamais. C'est un temps contre nature.
Comme le ciel des peintures. Comme l'oubli des tortures.
Il fait beau comme jamais.
Frais comme l'eau sous la rame.
Un temps fort comme une femme.
Un temps à damner son âme.
Il fait beau comme jamais.
Un temps à rire et courir.
Un temps à ne pas mourir.
Un temps à craindre le pire.
Il fait beau comme jamais.
Tant pis pour l'homme au sens sombre.
Le soleil prouvé par l'ombre
enjambera les décombres.
Lecture et commentaire.
Et voilà, c'était donc une lecture d'Aragon, un poème proposé par Manon d'ailleurs.
Merci, merci à tous. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce poème, Natacha ?
Didier a bien commenté, et c'est un poème, comme il a dit, sur le temps, sur la jeunesse qui passe.
Merci, c'est vrai que Didier en a dit pas mal de choses au début. Vous voulez, on peut continuer avec cette fin d'émission, on fait les actualités de Saint-Jean-de-Dieu. C'est vous qui allez...
Actualité Saint-Jean-de-Dieu.
Voilà, c'était le jingle des actualités de Saint-Jean-de-Dieu. On vous écoute.
Il y a beaucoup d'événements qui sont prévus en 2026 à Saint-Jean-de-Dieu. Mais on peut déjà vous inviter à assister à deux concerts qui auront lieu en mars. Des chœurs lyonnais qui viennent nous envoûter avec leur voix mêlée. Le dimanche 1er mars, c'est le chœur Escale qui nous apporte le vent du lointain avec des musiques du monde, des chants de différentes cultures, de la polyphonie. Le samedi 14 mars, ce sont les chantiers musicaux qui viennent à nous pour un concert qui rassemble plusieurs chorales. N'hésitez pas à nous envoyer un message à l'adresse de l'émission pour qu'on vous ajoute à notre liste de diffusion.
Et c'est Zaya qui nous rappelle le mail.
Alors le mail, c'est radiopassage.sjd@gmail.com.
Merci, merci à tous. Eh bien, il nous reste à tous vous remercier. C'est Cécilia et Zaya qui vont nous faire la liste de toutes les personnes qui ont participé.
Radio Passage, faire ensemble, est un projet coordonné par le service d'action culturelle de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon. Ont participé à cette création collective
Zaya Chebala,
Nathalie Clouseau,
Maroula Mathieu,
Julien,
des adhérents du GEM OZ,
Didier,
Omar Touel,
Cécilia Devarine,
Manon Christophe, ainsi que Véronique Ferracha pour la création des jingles et Jean-Jacques Cornillon pour la chronique Vivre avec. Direction artistique
Stéphane Doblin.
Remerciements à Romain Ottaviano, le Quatuor Emana, Claude Roga, Robin et Eric.
PLR pour sa confiance. Guillaume et Philippe de la résidence Accueil de Surville, un très bel accueil pour leur coopération. Marion et Arthur du GEM OZ pour les échanges que nous avons eus au début du projet.
Agathe Pallade et l'équipe du Centre d'art plastique de Saint-Fons, Oriane Privot du Musée des Beaux-Arts de Lyon, Catherine Imoff et Radio Pluriel pour leur accueil toujours généreux, Gaetano Battezzato et les patientes de l'hôpital gériatrique de Fourvière qui ont accepté de répondre à nos questions, Maëlle de l'entreprise Gonnet pour le lien avec son collègue déménageur.
la Direction régionale des affaires culturelles.
Radio Passage.
Faire ensemble.
Vivre ensemble. Tous les mercredis et dimanches, de 10h à midi.